Florian Lecture.
Bouillon de lecture, un bouillon d'été où on a choisi de vous lire un livre un peu plus en détail, par épisode. Nous avons choisi l'héritage de Cavanna, oui, le Cavanna de Harakiri et de Charlie Hebdo. François Cavanna est né en 1923 d'un père italien et d'une mère française. Il a vécu à Nogent-sur-Marne dans ce qu'il appelle lui-même une rue aritale. Et donc dans son livre, il raconte son enfance, la France des années 30, dans sa banlieue parisienne, avec un langage assez cru, assez imagé, qui se veut le langage de l'enfant qu'il était. Aujourd'hui, trois extraits différents. Un sur le cinéma et la fascination qu'il exerce sur le petit François, un autre sur le contexte mussolinien de l'époque, et un troisième sur, les beaufs. Vous comprendrez.
Le cinéma. C'était pas longtemps après le moment où le cinéma plof était devenu parlant. Du jour au lendemain, toutes les salles avaient dû s'équiper pour projeter des films parlants. Les gens, tu penses, ils ne voulaient plus payer pour aller voir des trucs qu'il fallait tout le temps que l'histoire s'arrête pour que tu lises en écrit ce qu'ils étaient en train de se dire en parler dans le film. Ça cassait l'action, et puis, si tu lisais pas les paroles assez vite, t'arrivais jamais à savoir tout ce qui se disait, si bien que tu comprenais rien. Et merde, un film que tu comprends pas ce qui se passe dans l'histoire, tu te demandes ce que t'es venu foutre là. Faut se mettre à la place des gens. Et bon, voilà donc que le cinoche était devenu parlant. Et avec de la musique autour, même de la vraie grosse musique, avec des trompettes, comme à l'opéra. Pas le piano misérable de la vieille demoiselle devant l'écran du Central Palace, non. De la vraie musique. Très triste, quand la belle jeune fille reçoit la lettre que son fiancé a été tué, toute joyeuse avec de l'accordéon quand il court main dans la main sur l'herbe fleurie, terrible à te glacer le sang quand le monstre étrangleur s'avance dans l'ombre, toute doucereuse, pas franche, pleine de bémols, quand le traître, avec un sourire de traître, va sur la pointe des pieds renseigner l'ennemi, le sale fumier. C'est drôlement foutu, hein, on peut pas se tromper. On comprend bien tout. On sait si c'est du tragique ou si c'est du comique. Le progrès, c'est beau, moi, je trouve. Oui, mais du coup, les films muets, fini. Plein de beaux films muets qui ont été tournés et plus personne pour les regarder. Et les appareils de projection, au rancard, faut en acheter des neufs, des qui parlent et qui chantent. Et alors, l'abbé Martin, vous savez ce qu'il a fait? Il s'est acheté à la casse un appareil de cinéma muet. Il l'a eu pour une poignée de cerises, vu que même le père Jourde, le ferrailleur, n'en aurait pas voulu. Il était un peu vieux, mais encore tout bon. L'abbé a bricolé une cabine de projection au fond de la salle du catéchisme. À l'autre bout, il a accroché un écran, un grand, un vrai, avec du noir autour. Et tous les jeudis après-midi, il nous faisait du cinéma. Il faisait payer 10 ronds, c'était vachement pas cher. Pour tes 10 ronds, t'avais deux grands films et un comique. Des vrais grands films avec de l'amour et des baisers sur la bouche. Et des bonnes femmes très belles que tu voyais leurs cuisses jusque tout en haut, des fois. Je me rappelle avoir vu La Bataille, L'Occident, Les Mystères de New York, Les Misérables, Salambo, et plein de films de top mix, Le Roi des Cowboys. Même les affiches, il avait l'abbé, il les affichait la semaine d'avant pour la semaine d'après. Mais ce qu'on aimait par-dessus tout, c'était les comiques. Quand on avait trop fait les cons, l'abbé menaçait de nous sucrer le comique. Du coup, on se tenait peinard. Laurel et Hardy, Charlot, Harold Lloyd, Fatty, Buster Keaton, Double Pâte et Patachon, Beau Citron, Max Linder, Fil de Fer, Félix le Chat qui est du dessin animé. Qu'est-ce que j'aime rigoler. L'aventure, j'aime bien aussi, mais c'est vraiment la rigolade qui me fait courir. Pour les illustrer, pareil. À l'entracte, des louveteaux vendent des chocolats, des bonbons à la menthe. Et s'il te manque un sou pour faire 20 ronds, compte pas sur l'abbé pour le crédit. Il a ses chouchous. C'est les scouts et les enfants de cœur. Mais tous les curés, c'est bien pareil. Et puis, l'abbé Martin, il aime bien les grosses brutes ritales de la montagne. Ceux sur qui il est obligé de cogner et qui le rendent. Les autres, les ordinaires, les gentils, on se sent un peu trop. On fait la foule, quoi. Ça, c'était autrefois. Maintenant, je vais au vrai cinéma avec les copains le jeudi après-midi. Quand on a des ronds, bien sûr. Et même quand on n'en a pas, je vous expliquerai. Le jeudi, c'est la matinée spéciale jeunesse. On passe les mêmes films que le reste de la semaine, mais en faisant payer les moins de 14 ans 40 sous au lieu de 4 francs, ce qui fait juste la moitié. Aucun adulte ne serait assez dingue pour se risquer dans un cinéma le jeudi après-midi. Autant aller pique-niquer dans la cage aux fauves. À Nogent, on a deux cinés, le Central Palace et le Royal Palace. Tous les deux dans la grande rue. Mais le gros Rupin Royal écrase de tous les zinzins de sa façade blanche le quartier chic, près de la mairie. On le voit de très loin, d'au-delà de Champigny. La nuit, ses ampoules de toutes les couleurs illuminent la vallée de la Marne comme un arbre de Noël. Le Central est un vieux petit cinoche cradingue, pas loin de la rue Sainte-Anne. Il doit dater des frères Lumière. Quand on entre, ça sent le tabac froid et le lainage de pauvres. Ça prend à la gorge. Après, on s'y fait. On a aussi le Palais du Parc, au Péreux. Suffit de passer sous le pont de Mulhouse. Des fois, on va jusqu'au casino, à la Maltournée, le gazingue de la Maltape. Mais alors là, on prend des risques. On n'est plus chez nous. Les bandes de par là nous voient arriver. C'est rare que ça se termine dans la bonne éducation et la fervente communion dans le 8e art. Deux grands films à chaque séance, plus un dessin animé, silly symphonie ou un petit comique, plus les actualités, plus des bouts de films de la semaine prochaine pour te donner envie. On entre là-dedans à 2h de l'après-midi, on en sort vers les 6h. À 4h, entr'acte. Esquimaux, bonbons acidulés, pastilles de menthe. Les ouvreuses en mettent un coup, les rapaces, pour nous pomper les derniers sous au fond de la poche avec leurs friandises. Parce que pour le pourboire, le jeudi en matinée, j'aime mieux vous dire qu'elles font tintin. Les sous sont trop durs à voler dans les porte-monnaies des mères pour qu'on aille les filer à une feignasse qui a juste eu la peine de te balader une loupiote sur les nougats. Roger, Pierrot et moi, on aime mieux profiter du quart d'heure pour s'empiffrer des chaussons aux pommes chez le boulanger d'à côté. Ou, si on est fauché, grimper chez l'un de nous et rafler un pain, un camembert, un saucisson, n'importe quoi. Et on retourne plonger dans la peluche rouge dès que la sonnerie de fin d'entracte fait sursauter le quartier. Mais attention, faut pas arriver trop tôt. Il faut arriver juste au poil avant que ce soit trop tard. Juste au poil. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que le vieux con à la porte qui ramasse les tickets d'entracte qu'on nous a distribués à la sortie. Si on s'amène tous ensemble, toute la foule d'un seul coup, et qu'en plus on est bien affolé par la peur de louper le début du film, eh bien le vieux con, il ne peut pas ramasser tous les tickets un par un. Il essaie bien, il gueule, il parle d'appeler les flics, mais on lui passe sur le ventre, on déboule en avalanche. Et ça, c'est la combine. Dans le paquet, tous les potes qu'on n'a pas pu grouper qu'à Rendron pour se payer le cinoche, ils sont revenus rôder à l'entracte dans les ruelles autour. Et ils te disent « Fais pas la vache, merde, planque-toi, je rentre avec vous, merde, quoi, les mecs ?» Alors bon, voilà. Quoi, t'as tout compris, t'as. Ils ont loupé un film, mais le plus chouette des deux passe toujours en deuxième partie. Ça vaut quand même drôlement le coup. Si bien que la salle est toujours plus bourrée après l'entracte qu'avant. Maintenant, tu sais pourquoi. Il y a même des tas de types qui restent debout. Debout, pas pour longtemps, remarque, parce que à peine le noir revenu, les plus fumiers virent les tout petits de leur siège vite fait et te les allongent sanglotant sur la moquette. Tandis que les plus beaux gosses ou les plus gonflés s'installent sur les genoux des filles non accompagnées ou accompagnées. Ça dépend si t'as dans l'idée de t'offrir une petite châtaigne en plus. Dans cette cage aux fauves, il y a une super cage où rugissent des super fauves, le balcon. Le balcon, c'est comme le fond de la classe à l'école. Les cancres y courent d'instinct. Les mêmes cancres. À l'école et au cinoche, marrant. Et là-haut, il y a deux rangs de fauteuils tout spécialement recherchés. Le premier rang tout contre la rambarde au-dessus du vide et le dernier rang dos au mur. Les premiers arrivés font la course pour attraper une place au premier rang d'où ils feront pleuvoir sur les cons d'en bas, épluchures de cacahuètes, peaux de banane, boulettes de sarbacane et toutes ces joyeuses choses qui vous tiennent à l'idée quand on a de l'imagination et la loi de la pesanteur avec soi. Pour le dernier rang, contre la cabine de projection, pas de bousculade, pas de compétition. Ce sont les places réservées, les trônes des caïds et de leurs fiers esclaves. Là, ça rigole pas. Ça plotte, ça bécote, ça fait à la ronde circuler les petites culottes. Grognements et gémissements, élastiques qui claquent, zip qui zip. Hey, tu me fais mal, merde, fais gaffe avec tes ongles. Paf, une baffe, attrape salope, c'est comme ça qu'on cause à son homme. Sanglots discrets. Du ciné qui serait que du ciné. Sans toute cette marade et sans le vague espoir que tu vas peut-être aujourd'hui y trouver la paire de nichons de ta vie, ça serait pas du ciné. Ça serait, je sais pas moi, comme regarder un film chez soi pour moi tout seul. Autant lire un bouquin alors. Ça oui, c'est le vrai plaisir du solitaire. Faudrait pas croire qu'on s'intéresse pas à l'écran. Au contraire, passionné on est. On marche à fond, le public en or. Ce qu'on n'aime pas, c'est les traîtres. Déjà, pour accepter des rôles comme ça, faut être un beau dégueulasse. Et puis, pour faire le traître, faut avoir une gueule de traître. Et si t'as une gueule de traître, ben, pas de fumée sans feu. Dans la grande illusion, tout ce qu'on a voulu savoir, nous autres, c'est qu'Eric von Stroheim, saleté d'officier Bosch et archi-Bosch, n'arrêtait pas d'essayer d'empêcher Jean Gabin et Pierre Freinet, braves prisonniers français, de s'évader. Non mais quelle ordure! Si on nous l'avait refilé, ce fumier seulement 5 minutes, tiens, on y aurait fait sa fête. Hein. Ça gueulait au balcon, et quel crâneur! Quand von Stroheim, raide, tire son revolver, « Monsieur Théboltieu, Laurent Dufon s'est dressé. Viens un peu par ici, feignant, d'homme à homme. C'est trop facile quand on est commandant et qu'on a un régiment. » Leurs paluches étrangleuses s'agitaient dans le faisceau de lumière. Ça faisait de grandes ombres chinoises sur l'écran. Like I said, it was at the Whiskey a Go-Go when I first heard her singing on the stage. It was pretty and pink. She had a license to kill. Yeah.
Le drapeau. L'héritage et la politique, ça couche pas ensemble. D'abord, quand on est immigré, on a intérêt à se faire tout petit, surtout avec le chômage qui roule. Pris dans une manif ou un meeting, c'est la carte de travailleur qui saute, la carte bleue. Tu te retrouves avec la carte verte, pas le droit de mettre les pieds sur un chantier, juste celui de faire du tourisme. Ou même carrément expulsé, reconduit à la frontière, avec au cul un dossier de dangereux agitateurs, que la police française se fera un plaisir de communiquer aux sbires de Mussolini. Alors les jours de grève, quand des types excités traînent en bande dans les rues avec des manches de pioche, tu restes à la maison et tu jures des bordées de diout estramaledis contre ces feignants de Français que s'ils veulent davantage de sous, ils n'ont qu'à travailler davantage. Echo, merda, quoi, à la fin. Partant électoraux, fais un grand détour. Si tu vois des zigotons en train de coller des affiches ou d'en arracher, t'es pas chez toi, t'existes pas. Si t'es pas content, si tu veux l'ouvrir, ta gueule, t'as qu'à retourner dans ton putain de pays. Oui, mais justement, dans ton pays, la gueule, on ne l'ouvre pas. Le fascisme est assis dessus, sur ta gueule, avec son gros cul, ses chemises noires, ses grands féodaux, ses petits épismards, ses curetons, ses espions, ses carabiniers, ses chiés de mômes fouineurs, fanatisés, tordus dès le berceau. Ouais, faut pas dramatiser, la plupart des ritales par ici s'en foutent. Comprennent que dalle, sauf ça. La politique, il est pas bon. Ou sont vaguement d'accord, le fascisme, après tout, c'est l'ordre. Le fascisme, c'est les gens convenables. Le fascisme a donné du travail à l'ouvrier, chose qui ne s'était encore jamais vue en Italie. Des Français, des messieurs bien, des messieurs pour qui on construit les belles villas en bordure du bois, confient parfois au maçon italien, tout en trinquant avec lui à l'occasion de l'accrochage à la plus haute cheminée du bouquet de fleurs des champs qui proclame à la face du ciel que la maison est désormais hors d'eau. « Ah, mon ami, votre pays, quel exemple! C'est un Mussolini qu'il nous faudrait !» Le rital est flatté, dis donc. Les ritals cubaini ont été très impressionnés par le pape signant les fameux accords de Latran avec le Duce. Se ha firmato il papa, allora vuole dire che questo Mussolini sia un uomo per bene. Si le pape a signé, c'est que ce Mussolini est quelqu'un de comme il faut. Le pape n'irait pas serrer la main à un voyou. Il y a bien la façon dont Mussolini se conduit avec le roi, il rey, qui les gêne un peu. Il a mis loin du seigneur au coin comme un petit merdeux, il lui passe de loin en loin un papier à signer, il le montre une fois par an à la foule au balcon posé sur une caisse vide pour que son plumet dépasse de la balustrade. C'est un roi tout petit. Mais enfin bon, Mussolini fait des autostrades, Mussolini assèche les marécages à malaria et fait pousser du riz à la place. Mussolini construit des gares pharaoniques tout en marbre et en béton. Mussolini forge une formidable armada de cuirassés, de sous-marins, d'hydravions. On ne voit que lui aux actualités du cinéma, toujours en train d'inaugurer un machin colossal, mâchoire au vent et rentrant le bide. L'Italie est un immense chantier, l'Italie étonne le monde par sa vitalité. En même temps, explique-moi ça, on n'a jamais vu autant de ritales débarquer à la gare de Lyon, avec leurs valises de carton bouclées par une ficelle, leurs joues de montagnards creusées à la serpe, leurs yeux de loup dévorant sous la visière de la grosse casquette enfoncée jusqu'à la racine des oreilles bien rouges, rabattues à l'horizontale comme les poignées d'une marmite. C'est que Mussolini fait la guerre en Abyssinie, parle de conquérir l'Albanie, la Grèce, la Turquie, la Yougoslavie. Gueule pour que la France lui rende Nice, la Corse, la Savoie et la Tunisie, que si on lui donne pas de bon cœur, il viendra les chercher. Double et triple le temps du service militaire. Papa dit que ça lui rappelle la grande époque de l'immigration, la grosse vague d'avant 14 et celle d'immédiatement après, celle de papa justement. La France alors embauchait en masse pour la reconstruction des régions dévastées. Les rivales se sont ruées. Chez eux aussi, c'était dévasté. Ma niente soldi. Beaucoup sont obligés de reprendre le train dans l'autre sens, n'ont pu décrocher qu'un permis de séjour de 15 jours, un mois. Ceux qui trouvent du travail, mais l'embauche est rarissime, faut avoir ici un parent entrepreneur, lequel fera ensuite un certificat qui permettra d'obtenir une autorisation de travail provisoire, premier pas vers la carte bleue. Ceux-là font vite venir la famille. Il raconte à voix basse des histoires de malpensants bastonnés à mort ou purgés à l'huile de ricin jusqu'à ce qu'ils crèvent noyés dans leur chiasse. Des histoires qui font hocher la tête aux anciens, incapables de croire que des Italiens puissent être si méchants. Comment ils se sont démerdés pour partir, j'en sais rien. Mussolini ne veut plus que ces Italiens, ces fils de la Louve, aillent mendier du travail chez les Français démocrates dégénérés pourris. Il fait toute une propagande pour que les pauvres malheureux qui gémissent dans l'émigration, regagnent le sein généreux de la mère patrie. À défaut, il essaye de les convertir au fascisme militant, ça peut toujours servir. Il envoie aux familles méritantes, des colis où il y a du jambon de Parme en boîte, des torroni, c'est des nougats avec de jolies images autour, et des uniformes de balilas pour les garçons. Les balilas sont des espèces de boy scouts fascistes. Les mômes sont pas chauds pour enfiler le déguisement, mais les mères se disent que c'est toujours une chemise et une culotte d'économiser. Et bon, t'as plus qu'à rentrer ton col de chemise bien sous ton tablier si tu veux pas te faire casser la gueule à l'école. Un jour, on voit s'amener Nino de la rue des Clamart en uniforme complet de la balila d'élite, chemise noire, culotte de scout plus bas que les genoux et si large que ses jambes avaient l'air de battants de cloche. Foulard bleu, ceinture et baudrier de cuir, et sur la tête une espèce de calotte de soldat à la con avec un pompon qui lui pendait devant le nez au bout d'une ficelle. Nino est un peu cinglé, il a été trépané étant petit. Il chantait « Giovinezza » et faisait le grand salut fasciste en gueulant « Eia, eia, alala !» qui le terrible cri de guerre sauvage des fascistes que quand les rouges l'entendent, ils chient dans leur froc et tombent à genoux et pleurent pitié, grâce, pardon, c'est un cri magique. C'est le grand poète Gabriele D'Annunzio qui l'a inventé pendant une nuit de fièvre et de génie. Il faut le crier à pleine gueule en pensant de toutes ses forces au Duce, au roi, à la patrie et à Dieu. À tout ça en même temps, il faut penser. Sans ça, ça ne marche pas. C'est difficile, oui, mais si tu n'arrives pas à penser à tout le monde, pense surtout au Duce, c'est le principal. Il remplace tous les autres quand ils sont partis pisser. Lui, il est toujours là. Naturellement, ça a tourné qu'on a couru au cul de Nino en lui jetant tout ce qu'on a pu trouver de bien dégueulasse sur sa belle chemise noire et en gueulant « Eia, eia, alala !» Ça s'est terminé une fois de plus sur l'enclume à coups de boucle de ceinture. Peut-être que son père n'était pas d'accord, question idée politique, ou peut-être question le belle chemise dégueulassée, va savoir. J'ai entendu les Allemands gueuler « à Hitler » au cinéma. Ça oui, ça fout la trouille. Mais « Eia, eia, alala !» c'est Rital, c'est vraiment des rigolos. Quand j'étais petit, dans un coin derrière l'armoire, il y avait un long étui en toile cirée noire, tout râpé aux coutures, plus haut que moi, beaucoup plus. J'attendais d'être seul à la maison. Je le défaisais avec précaution et avec un peu d'angoisse au ventre. Le lacet qui fermait l'étui tout au bout, je rabattais un peu de toile cirée, un cylindre rouge éclatant apparaissait. Ce rouge était le rouge du vert blanc rouge italien. Roulé comme ça, vu du bout, ça faisait une cocarde, le vert au milieu et le blanc entre les deux, et le rouge tout autour. Un fer de lance en fer blanc, doré, dépassé. C'était le drapeau italien qui était roulé là, chez nous, derrière l'armoire. Qu'est-ce qu'il foutait là? Eh bien, en ce temps-là, papa était le porte-drapeau de la lyre garibaldienne nogentaise. À ce titre, c'était à lui qu'était confiée la garde du drapeau. C'était un grand honneur, je sentais bien. J'aimais ce vert blanc-rouge, c'était presque le bleu-blanc-rouge sacré, mais brouillé par ce vert incongru, pimpant, pas sérieux, métèque, perroquet, caricature de tricolore pour peuple n'ayant pas le sens de l'implacable. Le bleu-blanc-rouge est sauvage et rigide, couleur de caserne, couleur d'adjudant, couleur de tuerie grandiose et disciplinée. Mais du vert au lieu du bleu, ça, aussitôt, ça sent le parmesan et l'huile d'olive. Faut vraiment pas grand-chose. Du vert, c'est presque du bleu, c'est du bleu avec un petit peu de jaune dedans, et paf, ça fout tout par terre. Les gens devraient y penser quand ils inventent les drapeaux. Pas de vert, pas de jaune, pas de violet. Les Allemands sont les plus terribles, du noir, du rouge et du blanc. Un vrai bonheur de se faire tuer par ça, au garde à vous, raide comme un piqué. Mais tu le vois, courant au devant des mitrailleuses en brandissant un drapeau brésilien, ce machin rond, vert pomme sur fond jaune. La lyre garibaldienne nogentaise est, je pense, une société affiliée à la Légion garibaldienne, ou quelque chose comme ça, qui regroupe l'héritage de l'esprit garibaldien, les chemises rouges. Ça doit être plutôt à gauche, socialiste et tout ça. Mais j'ai entendu dire que le propre fils de Garibaldi aurait serré la main à Mussolini. Alors je ne comprends plus très bien. Je ne sais pas si c'est les garibaldiens d'ici qui voient plus clair. En tout cas, l'étui en toile cirée n'est plus derrière la moire. Tiens, c'est vrai, il y a un bout de temps que je ne l'ai pas vu. J'y pense maintenant. La lyre garibaldienne défile au 14 juillet et au 11 novembre, soufflant dans des trompettes et tapant sur des tambours. Dans leur complet du dimanche, bien repassé, les fiers ritales rongent leurs freins derrière l'harmonie municipale nogentaise, qui marche triomphalement en tête du cortège, à beaucoup plus de trompettes, beaucoup plus de tambours, et même des gros machins de cuivre jaune tout tordu, tout bizarre, et beaucoup mieux astiqués, portent des casquettes à galons dorés, toutes bien pareilles, et des pantalons blancs, avec une lyre brodée sur le devant, les casquettes. Pourquoi une lyre, je vous demande ? C'est dans les trombones qui soufflent, pas dans les lyres. Les symboles sont des cons. et défile l'harmonie municipale derrière un vrai drapeau tricolore, elle, bleu, blanc, rouge, pas un drapeau de guignol. Les ritales de la lyre ont des gros lois raides avec du ciment incrusté dans les plis et des ongles limés à ras par la brique rouge. Les ongles et la peau avec, et même la viande. C'est pas le rêve pour le doigté du Tagada sur la trompette. Et puis ces porca manona de touches sont si petites, ils en couvrent deux d'un seul doigt, doux et fait curieux. Mais pour le souffle, alors là, quel coffre! Et le gars, la grosse caisse, tu le verrais cogner sur son malheureux machin, tu verrais ses yeux de la haine. Monsieur Sandré, le mari de la concierge qui joue de la grosse caisse dans l'harmonie municipale, même qu'elle est toujours debout dans le coin de l'entrée chez eux, avec les cymbales dessus, si tentante. Monsieur Sandré, lui, tape juste ce qu'il faut, pas plus, juste quand il faut. Boum, boum, tsing, tsing, tsing. C'est la délicatesse française, comme dit maman. Papa, il s'est joué de rien, même pas de la grosse caisse, il s'est juste porté le drapeau. Il marchait devant les autres, fier comme un César, la hampe verticale au fil à plomb. Il porte le drapeau comme on porte devant soi une échasse d'échafaudage faite d'un seul tronc de sapin de 12 mètres de haut. « Besompo, Vigione !» qui lui criaient les autres. Un drapeau bien élevé, ça se porte incliné vers l'avant. Surtout un drapeau étranger invité. Mais papa, rien à faire. Contre vents et marées, au fil à plomb.
Di città, a scuola il banco è vuoto, un Marco è dentro me, è dolce il suo respiro fra i pensieri miei, distanze enormi sembrano dividerci, ma il cuore batte forte dentro me, chissà se tu mi penserai, se con i tuoi non parli mai, se ti nascondi come me, sfuggi gli sguardi e te ne stai, rinchiuso in camera e non vuoi mangiare, stringi forte a te il cuscino e piangi e non lo sai quanto altro male ti farà la solitudine. Nanai, 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 nanai. Nel mio diario una fotografia, agli occhi di bambino un poco timido, la stringo forte al cuore e sento che ci sei, fra i compiti d'inglese e matematica, tuo padre i suoi consigli che monotonia, lui con il suo lavoro ti ha portato via, di certo il tuo parere non l'ha chiesto mai, ha detto un giorno tu mi capirai, chissà se tu penserai, se con gli amici parlerai, per non soffrire più per me, ma non è facile, lo sai, a scuola non ne posso più, e i pomeriggi senza te, studiare è inutile, tutte le idee si affollano su te. Divide la vita di noi due, ti prego.
Une fois l'an, il y a le grand banquet des Garibaldiens. Ça se fait chez Cavana, le grand Cavana, le restaurant en face du commissariat. Des cousins à nous, vaguement, je sais pas trop à quel degré, les parentés ritales, quel sac de nœuds. Tu comprends, des Cavana, il y en a bien 200, si c'est pas 3000, rien que dans la banlieue Est. Et il y en a un qui est célèbre, même chez les Français, même à Paris, le Cavana, justement, du restaurant de Nogent. Dès que je fais la connaissance de quelqu'un, ça loupe pas. Vous êtes parents avec le restaurant ? Moi, fier comme un pou. Cette fois, maman dit « Tu devras emmener le petit au banquet, ça le dégourdira, ça lui fera du bien. » Papa dit « Vie, madame. » J'ai enfilé ma chemise blanche, mon costume de communion, je me suis fait l'arrêt sur le côté, bien collé les tifs à la gomina. J'étais impressionné, j'avais 10 ans, j'allais dans le monde pour la première fois. En arrangeant mon cravate, maman m'a dit « Tu le surveilleras pour qu'il boive pas trop et qu'il ne revienne pas sous comme un cochon. » Mission sacrée. Je me jurais de veiller au grain, comme un poilu sur la ligne bleue des Vosges. Et elle, maman, pourquoi elle n'y allait pas ? Parce que c'est comme ça, maman ne va jamais nulle part. Sauf au cinéma, quand on joue un film très beau, très instructif, par exemple le couronnement de la reine d'Angleterre. J'ai mis ma main dans la main de papa et on est parti dans la nuit, il faisait froid. Papa bourdonnait sa petite chanson en mordillant sa chic. Il était tout fier de m'avoir avec lui et que ses copains voient son piston, ce François, maigre et jaune, trop grand pour son âge. Toujours premier de sa classe et encore premier au catéchisme. Moi, j'étais fier de papa. C'est le plus fort et le plus aimé. Tout ce que je me rappelle du banquet, c'est des longues tables et des longues nappes blanches, des lumières, des gens, du bruit, surtout du bruit, et énorme. Les graves voix de Rital résonnant en pleine joue sur les larges voyelles, les rires, les blagues. Ma tête qui tournait me faisait mal. J'ai jamais supporté la foule, le vacarme joyeux de la foule. Et Gasparini, le petit cordonnier, sous d'une soulographie pleine de dignité, et papa, sous comme une vache, mais pas digne du tout. Va empêcher papa, tiens. Un groupe de genoux avait décidé de lui faire battre des records, et lui, en vrai champion, pas question de se défiler. Ils avaient trouvé un bocal à poisson rouge, viré les poissons et rempli le bocal de Chianti. Il devait y en avoir 3 ou 4 litres. Et naturellement, il l'avait mis au défi de boire ça d'un coup. Papa avait sauvé l'honneur. Je me cramponnais à son bras, je gueulais, je traitais les autres de sales cons ou de fumiers. Je leur foutais des coups de poing où je pouvais, dans le cul, dans les couilles, pauvre petit merdeux que j'étais. Ils m'écartaient d'un revers distrait. Et moi, j'avais peur de voir papa boire comme ça, la tête en arrière, riant en pleines dents. La vinasse lui dégoulinant du menton et sa pomme d'Adam qui avalait. Et tous ces cons qui se marraient, fumiers, l'enculé, qui voyaient ma terreur monter. Et papa qui se cassait la gueule, tombait à plat ventre dans les épluchures, et les femmes crispées de dégoût, qui se blottissaient contre leur raisonnable mari, si fort, si présentable. Et les mômes, mes copains, qui donnaient des coups de pied à papa, lui crachaient dessus et lui barbouillaient le crâne de reste de zupa inglese. Comment j'ai tiré papa de là, je sais plus. Ces cons s'étaient mis à danser, bal des familles, leurs gros culs, leurs grosses mémères. Moi, je tirais papa dans les caniveaux. Je passais dessous pour essayer de leur mettre debout. Il s'était mis à pleuvoir, je chialais, je rageais. Je lui foutais mon poing sur la gueule, sale con de soulard de merde. Il avait une tête épouvantable sous les becs de gaz, je le voyais boursoufler, violacé comme un anthrax sur le point de crever. Je suis enfin arrivé à me l'appuyer sur le dos et presque à le porter. Voilà qui me dégueule dessus, du coup je dégueule aussi. Les 500 ou 600 mètres jusqu'à la maison, ça m'a pris la nuit. Et après, il a fallu s'appuyer les 3 étages. L'aube est arrivée en même temps que nous. Maman ouvre la porte, elle n'a pas le temps de dire « Mon Dieu !» et il s'affalait dessus. Un mort. J'ai vraiment cru qu'il allait en crever. Je haïssais d'une haine ravageuse les sales cons qui jouaient à humilier un homme, à le ravaler avec leur cordialité de merde et leur gaieté d'hypocrite et se marrer comme des baleines en imaginant les suites. Les suites, on y était. Papa dégueulait à énormes jets, éclaboussait tout, chier sous lui, pissait, geignait. Maman courait de lui à l'évier, tordant des serpillères, sanglotant, et lui... relevé et devenu méchant, gueulant et cassant tout, maman terrorisée m'enfermant dans la cuisine pour me protéger, la sinistre journée d'après. Pourquoi je raconte ça si longuement ? Papa n'est pas un ivrogne, c'est pas ça que je veux dire. Il est faible, il est bon, il croit à la bonté des autres, à l'amitié. Il se fait avoir, papa c'est un ange. Les autres sont de pauvres cons, pas méchants pour de ronds, très braves, mais cons. En tout cas moi, Le long de cette nuit de cauchemar, j'ai ramassé une trouille, un dégoût de l'alcool, de la fête et des petits sadismes innocents qui sont pas prêts de me lâcher.
À l'arrière des berlines, on devine des monarques et leurs figurines. Juste une paire de demi-dieux livrés à eux. Ils font des petits, ils font des ennuyeux. À l'arrière des dauphines, je suis le roi de Sénérat. À qui sourit la vie. Marcher sur l'eau, éviter les péages, jamais souffrir, juste faire hennir les chevaux du plaisir. Osez, ose Joséphine, osez, ose Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit. Rien ne justifie. Usez le soulier, usez l'usurier, soyez ma muse. Et que ne durent que les moments doux, durent que les moments doux. Et que ne durent. Osez, ose Joséphine, osez, ose Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie. Osez, osez. Joséphine, osez, ose Joséphine, plus rien ne s'oppose à la nuit, rien ne justifie.
C'était donc trois extraits tirés du livre de François Cavanna, L'Hérital, un livre paru en 1978 chez Belfond. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite. Au revoir.